Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Psachim, page 78, Daf Ein Het. Bonne écoute et bon limoud.
En fait, il n'y a pas de question. Kan beyachid, kan betzibur. Ici, nous parlons d'un cas d'un particulier et ici, nous parlons du cas du public, c'est-à-dire. Dans le cas d'un particulier qui amène son sacrifice, alors Rabbi Yehoshua a enseigné sa loi qu'a priori, on n'aura pas le droit de jeter le sang sur l'autel si la viande est devenue impure. Et a posteriori, si le sang a été jeté lorsque la viande est devenue impure, alors le sacrifice est accepté. Mais dans un cas d'un sacrifice public, comme les cinq cas mentionnés dans la Mishnah, même a priori, on aura le droit de jeter le sang sur l'autel lorsque la viande n'est pas consommable. Et nous avons fini ici le shiur de Dar. Ein Zayin. Nous commençons Bezrat Hashem, le shiur de Daf Ein Chet. Nous sommes Daf Ein Chet Amud Alef, deuxième ligne. La Gemara demande, Neima Matnitin de Loker Biosi. Allons-nous dire que notre Mishnah, qui nous dit qu'il y a cinq offrandes qui peuvent être offertes en état d'impureté, ne suit pas l'opinion de Rabbi Yossi, d'Etania, car nous avons enseigné dans une Braïta, Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer dit, Atit meratze al achilot. Le tzit peut faire considérer la viande d'un sacrifice qui est devenu impur comme étant consommable. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, en atit meratze al achilot. Le tzit ne peut faire considérer la viande d'un sacrifice qui est devenu impur comme étant consommable. Alors, kasal kadata, on a pensé dire, mide kaama Rabbi Yossi, étant donné que Rabbi Yossi a dit, en atit meratze al achilot. Le tzitzit ne peut faire rendre la viande d'un sacrifice qui est devenu impur, ne peut la considérer comme étant consommable. Alors que Rabbi Yehoshua s'y râle. Ça veut dire que Rabbi aussi pense comme Rabbi Yehoshua. D'Amar qui a dit, Bainan Tarte. On a besoin de deux choses. C'est-à-dire que pour jeter le sang sur l'autel, il faut que la viande soit consommable. Et donc, puisque d'après Rabbi Yehoshua, la viande est devenue impure, elle n'est pas consommable. Et que le tzitzit ne peut la faire considérer comme étant consommable. Donc le sang d'un tel sacrifice, on n'a pas le droit de l'offrir sur l'autel. Donc on n'a pas le droit de l'apporter. Donc comment notre Mishnah nous dit qu'il y a cinq sacrifices qui peuvent être apportés en état d'impureté? Neima ashtam adidin de lo Rabbi Yossi. Alors on nous dit que notre Mishnah ne supère l'opinion de Rabbi Yossi. Alors la Gemara répond non. Lo Rabbi Yossi, que Rabbi Lezer s'virale. Rabbi Yossi, lui, il pense comme Rabbi Lezer. De Amar qui a dit, Dam afal bishen basar. On a le droit de jeter le sang sur l'autel, même si la viande n'est pas consommable. Or, Iachis, c'est ainsi. Les maïl cheta. Alors, pourquoi Rabbi Yossi a enseigné une loi pareille que le tzitz ne peut faire considérer comme étant la viande, comme étant consommable, même si la viande n'est pas consommable, et qu'elle n'est pas considérée comme étant consommable. De toute façon, on a le droit de jeter le sang sur l'autel. On l'a demandé, Vil Taimir, et d'après toi, Rabbi Eliezer d'Amar Atzitz Meraté, Rabbi Eliezer qui a dit que le tzitz peut faire considérer la viande comme étant consommable. Kevan d'Amar Dam afal bishen basar. Étant donné que Rabbi Eliezer a dit qu'on a le droit de jeter le sang sur l'autel, même si la viande n'est pas consommable. Atzitz Meraté al achilot, le maïchita. Pour quelle raison a-t-il besoin de nous dire que le tzitz peut faire considérer la viande comme étant consommable, même si le tzitz ne la faisait pas considérer comme étant consommable, et que nous disons que cette viande n'est pas consommable et elle n'est pas considérée comme étant consommable? Alors, de toute façon, on a le droit d'en jeter le sang sur l'autel. Alors, pourquoi Rabbi Eliezer a-t-il besoin de dire une chose pareille? Et là, alors, en fait, nous sommes obligés de dire qu'en fait, pourquoi Rabbi Eliezer a dit une chose pareille? Les mikbeh bepigoul, pour fixer le statut de pigoul, et nous avons expliqué que signifie fixer le statut de pigoul, ou la pukemide meila, et pour exclure le problème de la profanation, comme expliqué, c'est leur discussion. Et il faut expliquer. Il y a une première loi qui nous dit que c'est une pensée de pigoul, c'est-à-dire penser durant le service d'un sacrifice, en manger la viande après le temps, le délai où il est permis de manger de la viande de ce sacrifice, cette pensée est appelée pigoul et invalide le sacrifice. Mais il y a une loi qui nous dit que le sacrifice est invalide et a le statut de pigoul avec tout ce que cela entraîne, seulement s'il n'y a eu aucune autre invalidité dans ce sacrifice. Ça, c'est la première chose. Et donc, c'est ça la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi. Est-ce que nous considérons la viande comme étant consommable? Et si la viande donc est consommable, c'est comme si elle était pure. Et donc, c'est vrai que nous n'avons pas le droit de la manger, mais nous la considérons comme pure. Et donc, en fait, le statut de pigoule est fixé. Car en fait, normalement, le statut de pigoule est fixé après le dernier service. C'est-à-dire lorsqu'on jette le sang sur l'autel et que la viande est permise à la consommation. À ce moment-là, le statut de pigoule est fixé. Et donc ici, la viande est permise à la consommation. Donc le statut de pigoule est fixé car il n'y a rien d'autre qui invalide ce sacrifice. Mais si nous disons que la viande n'est pas considérée comme étant consommable, car elle est impure, donc en fait il y a ici une autre invalidité, un autre problème. Le problème que cette viande est impure, étant donné qu'il y a une autre invalidité, cette viande, ce sacrifice n'a pas le statut de pigoule. Donc ça c'est la première discussion. Deuxième discussion, il y a une loi qui nous dit que la viande d'un sacrifice, tant que l'on n'en a pas jeté le sang sur l'autel, si quelqu'un en profite, il l'a profané, car cette viande était sainte pour Dieu, et maintenant il l'a profané. Mais à partir du moment où le sang est jeté sur l'autel, cette viande passe du statut de sainte pour Dieu à sainte pour les prêtres, car c'est les prêtres qui en mangent de la viande. Donc cette viande n'est plus sainte pour Dieu. Et si quelqu'un en profite, alors à ce moment-là, il ne la profane pas. Et ce statut-là est fixé seulement si la viande est consommable, car si elle est consommable, alors à ce moment-là, elle s'appelle sainte pour les prêtres. Mais si elle n'est pas consommable, elle garde son statut de sainte pour Dieu. Et donc, c'est ça la discussion. Si nous considérons la viande comme étant consommable, alors à ce moment-là, quelqu'un qui en profite ne la profanera pas, car elle est consommable, donc elle est considérée comme étant consommable. Donc elle est sainte pour les prêtres. Mais, si nous disons que cette viande n'est pas considérée comme étant consommable, donc elle a gardé le premier statut de sainte pour Dieu, et quelqu'un qui en profite l'a profanée avec tout ce que cela entraîne. Donc c'est ce que l'Agma nous dit. Rabbi Eliezer sauveur, Rabbi Eliezer pense, Marté Tzitzalouye, le Tzitz peut faire considérer la viande comme étant consommable. Et donc, Mashvele Ketor, elle est considérée comme étant pure. Mais Kavale Be Pigoul, et donc le statut de Pigoul pourrait être fixé. Ou Mapikle Mide Meila, et cette viande-là n'est plus profanable. Car étant donné que nous la considérons comme si elle était pure, donc en fait, elle est considérée comme étant consommable. Et donc en fait, elle est sainte pour les Kohanim, mais elle n'est pas sainte pour Dieu. Mais Rabbi Yossi Savar, et Rabbi Yossi pense, l'homme en fait Tzitzilouye, le Tzitz ne fait pas considérer cette viande comme étant consommable. Velo Mashvele Ketor, et donc cela on ne la considère pas comme si elle était pure. Velo Kavale Be Pigoul, et donc le statut de Pigoul n'est pas fixé, car étant donné qu'elle est impure, il y a une autre invalidité dans ce sacrifice. Velo Mapikle Meila, et puisque nous ne la considérons pas comme consommable, donc on ne dit pas qu'elle est permise au prêtre. Et donc en fait, elle est restée sainte pour Dieu. Et donc, elle reste encore profanable. Matkivla Rav Mari. Alors Rav Mari pose une question. Car là, nous avons vu que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Eliezer, qui nous dit que de la viande qui est devenue impure, on aura le droit de la jeter sur l'autel. Et donc, notre Mishnah peut suivre l'opinion de Rabbi Yossi, car bien que la viande est impure, on aura le droit d'en jeter le sang sur l'autel. On est une émie de Rabbi Yossi, savoir que Rabbi Eliezer. Disons même que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Eliezer. Bish la mazevachi ikadam. Je peux comprendre à propos des sacrifices, il y a le sang qui est jeté sur l'autel, même si la viande est impure. Omer Naami Ika Kometz, à propos de l'offrande du Homer, qui est une oblation, aussi, il y a le Kometz, la partie qui est prélevée et qui est brûlée sur l'autel. Cette partie-là pourra être brûlée sur l'autel, même si le reste de l'oblation, le reste du Homer, est impur. Lechem Apnim Naami Ika Bazichin. Et les Lechem Apnim, les pains qui sont offerts dans le sein, il y a aussi les Bazichin. Les Bazichin étaient des espèces de grandes cuillères dans lesquelles on mettait de l'encens, et que l'on apportait, lorsqu'on faisait l'échange des pains, alors on apportait ces basirines. Et en fait, les basirines, cet apport de l'encens, correspond au jet du sang dans un sacrifice. C'est-à-dire que de même que dans un sacrifice, lorsqu'on jette le sang sur l'autel, à partir de ce moment-là, la viande du sacrifice est permise à la consommation, de même à propos de ces pains-là, les pains de la semaine qui vient de passer, et donc ce qu'on vient de changer, ne sont permis à la consommation au Kohanim, seulement lorsqu'on dépose les bazichines, ces espèces de grandes cuillères avec de l'encens, sur le shulchan, sur la table sur laquelle les pains étaient déposés. Et donc à propos de ces deux pains, il y a les bazichines, il y a ces cuillères qui correspondent au jet du sang, et même si les pains sont impurs, on aura le droit d'en déposer les bazichines. Et là, j'étais allégé, mais l'offrande des deux pains que l'on amenait à Shavuot, Maïkale et Mémar, qu'avons-nous à dire? Car ces deux pains, en fait, il n'y avait aucune partie qui correspondait au jet du sang sur l'autel. Car la seule chose qu'on faisait avec les deux pains, c'était de le manger. Ça, c'était le seul service qu'il y avait dans ces deux pains. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, on jette le sang sur l'autel et on le mange. On brûle une partie sur l'autel et le reste est mangé. Ou alors on apporte les bezichines et les pains sont mangés. Non! Ces deux pains étaient entièrement consommés. Alors qu'avons-nous à dire? Étant donné que le Tzitz ne peut faire considérer la viande d'un sacrifice ou le reste d'un sacrifice comme étant consommable, alors ces deux pains, étant donné qu'ils sont impurs, ils ne sont pas consommables et ne sont même pas considérés comme étant consommables. Et puisqu'ils ne sont pas considérés comme étant consommables, alors on ne peut rien faire avec. Et donc, comment pouvons-nous dire que l'on a le droit de les apporter? Et donc, à nouveau revient la question, comment Rabbi Yossi peut être d'accord avec la Mishnah? Et si tu veux me dire qu'en fait, ici, nous ne parlons pas des deux pains, mais nous parlons de ce qui accompagne ces deux pains, les sacrifices qui accompagnent ces deux pains, que ces sacrifices peuvent être apportés, alors c'est ce qui est enseigné dans la Mishnah, les rémunératoires du public. Pourquoi avons-nous besoin d'enseigner une seconde fois cette chose-là? Et imken, et de plus, et si c'est ainsi, c'est-à-dire qu'en fait, ici, nous ne parlons pas des deux pains, mais de ce qui les accompagne, à vous le voir, il n'y aura que quatre choses. Car, en fait, lorsque nous parlons des deux pains, nous ne parlons pas des deux pains, mais nous parlons des sacrifices les accompagnant. Et les sacrifices qui les accompagnant, ce sont les rémunératoires du public. Et les rémunératoires du public ont déjà été mentionnés dans la Mishnah. Donc, en fait, il n'y aura que quatre choses. Car les deux pains et les rémunératoires du public sont considérés comme étant une seule chose. Vanan et nous, Chamishadnan, nous avons enseigné qu'il y a cinq choses dans la Mishnah. Et donc, comment pouvons-nous dire que la Mishnah est d'accord avec Rabbi Yossi? Nous continuons le shiur de Daf Ein Chet. Nous sommes Daf Ein Chet Amud Aleph. Trois lignes avant les lignes plus larges. Nous avons vu donc que la Gemara pense que la Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Yossi. Car Rabbi Yossi pense que une offrande qui est devenue impure n'est pas permise à la consommation. Or, dans la Mishnah, nous disons que les deux pains qui étaient amenés à Shavuot avaient le droit d'être offerts. Et le seul service qu'il y a dans ces deux pains, c'est qu'ils sont consommés par les Kohanim. Or, puisque les Kohanim n'ont pas le droit de les manger, d'après Rabbi Yossi, car quelque chose qui est devenu impur n'est pas permis à la consommation par l'intermédiaire du titre, donc on n'a pas le droit de faire le service de ces deux pains. Et dans la Mishnah, nous disons que nous avons le droit de le faire. Alors, on nous dit, et là, ça va Rabbi Yossi, alors il faut dire qu'en fait, que Rabbi Yossi pense, Touma ut Rabbi Tzibur, que les lois d'impureté ont été annulées lorsque la majorité du public est impur. Et donc, puisque c'est ainsi, on a le droit d'offrir des sacrifices et il n'y a aucun problème. C'est pas comme lorsque nous disons que les lois d'impureté ont été repoussées et donc on a le droit d'offrir les sacrifices, mais il faut le faire accepter. Là, étant donné qu'elles ont été annulées, on n'a même pas besoin du titre pour le faire accepter. Ragma demande, Rabbi Yossi, peut-il penser une chose pareille? Il va à Tania, pourtant nous avons enseigné dans une braïta, et chadze vechadze, que ce soit celui-ci ou celui-là. Et nous parlons ici du Kohen qui s'occupait de brûler la vache rousse et du grand prêtre durant les 7 jours précédant Yom Kippur. Mazin alav kol shiva. On l'aspergeait durant ces 7 jours de purification de l'eau de la vache rousse. Mikol chataot de toutes les vaches rousses. Car en fait, la vache rousse, on l'a brûlée et la cendre, on la mettait dans de l'eau. Et lorsqu'il y avait une nouvelle vache rousse, on brûlait cette nouvelle vache rousse et on l'a rajouté aux cendres de l'ancienne vache rousse. Donc en fait, lorsqu'on l'aspergeait de l'eau de la vache rousse, il y avait les cendres de toutes les vaches rousses. Et donc, le Kohen qui s'est occupé de brûler la vache rousse, et le grand prêtre, durant les 7 jours précédents Yom Kippour, alors on le purifiait d'une façon pareille qu'on l'aspergeait durant tous les jours de l'eau de la vache rousse. Shayusham qui était là-bas. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi aussi nous dit, Omer, en mazin alav. On n'avait pas besoin de l'asperger durant les 7 jours, et la shlishi veshvi bilvad, seulement le 3e jour de sa purification, et le 7e jour de sa purification. Veisal kada atar kasava Rabbi Yossi Touma utrabetibur. Or, si tu penses que Rabbi Yossi dit que les lois d'impureté ont été annulées en public, lamaliazaklal, alors pourquoi avons-nous besoin d'asperger le grand prêtre durant les 7 jours précédents Yom Kippour, étant donné que le service de Yom Kippour est un service du public et que les lois de pureté ont été annulées en public, alors que c'est pas grave, le grand prêtre peut être impur et il n'y a aucun problème, il peut faire le service puisque c'est un service pour le public. Et la mechuvata, et donc en fait la vérité est que matnitin de loke Rabbi Yossi, que notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Yossi, car nous ne pouvons pas dire que Rabbi Yossi pense que les lois d'impureté ont été annulées en public. Ils pensent qu'elles ont été que repoussées. Et donc, puisqu'elles ont été repoussées, c'est vrai qu'il est permis d'offrir un sacrifice, mais on a besoin du titre pour faire accepter ce sacrifice. Or, d'après Rabbi Yossi, on n'a pas le droit de consommer des restes d'un sacrifice qui sont devenus impurs, car le tzitz ne permet pas la consommation du reste d'un sacrifice. Et donc, puisque c'est ainsi, dans la Mishnah, il y a un problème. Comment offrir les deux pains de Shavuot? On n'a pas le droit de les consommer. Et il n'y a rien qui correspond au jet du sang dans un sacrifice. Et donc, puisqu'il n'y a rien qui correspond à ça, la seule façon du service de ces deux pains, le seul service, c'est de les consommer. Or, d'après Rabbi Yossi, on n'a pas le droit de les consommer. Donc, notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Yossi. Amar le Rav Papa le Abaye. Alors, Rav Papa a posé une question à Abaye. Le Rabbi Yossi, shtara mezak le betre. Rabbi Yossi rend quitte les deux parties. C'est-à-dire que, c'est une façon de dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui vient au tribunal pour se faire juger, il y a celui qui attaque en justice et celui qui se fait attaquer. Et donc, automatiquement, il y en a un qui est quitte et l'autre qui n'est pas quitte. Là, apparemment, Rabbi Yossi rend quitte les deux parties. Comment est-ce possible? Pourquoi? Détania, quand nous avons enseigné dans notre baïta. Amar Rabbi Yossi a dit, Rohani et divré Rabbi Yezer bezvachim, ve divré Rabbi Yosha bezvachim. J'accepte les paroles de Rabbi Yezer à propos des sacrifices et les paroles de Rabbi Yosha à propos des sacrifices. Ve divré Rabbi Yezer bimnachot, ve divré Rabbi Yosha bimnachot. Et les paroles de Rabbi Yezer à propos des oblations, et les paroles de Rabbi Yosha à propos des oblations. Et Rabbi Yossi s'explique. Comment cela? Divrei Rabbi Yezer bezvachim, les paroles de Rabbi Yezer de Zvachim, je les accepte. Shaya Omer, car il disait, Dam, afalpi shen basar. On a le droit de jeter le sang sur l'autel, même s'il n'y a pas de viande, si elle est devenue impure, elle a été perdue, elle a été brûlée, etc. Divrei Rabbi Yosha bezvachim, j'accepte les paroles de Rabbi Yosha à propos des sacrifices, qui a dit, Shaya Omer, car il disait, Imen dam, en basar. S'il n'y a pas de sang, que le sang ne peut être jeté sur l'autel, on n'a pas le droit d'en consommer la viande du sacrifice. Imen basar. Et, s'il n'y a pas de viande, par exemple, si elle est devenue impure, ou elle a été perdue, ou elle a été brûlée, endam, on n'a pas le droit de jeter le sang sur l'autel. Et ensuite, Rabbi Yossi continue et dit, divrei Rabbi Yezer ben Menachot, j'accepte les paroles de Rabbi Yezer à propos des oblations. Shai Omer, car il disait, komet, afal pishen sham shiraim. On a le droit d'offrir sur l'autel la partie de l'oblation qui a été prélevée, même s'il n'y a pas de reste de cette oblation, si les restes ont été perdus, sont devenus impurs, ou ont été brûlés. Mais divrei Rabbi Yosha ben Menachot, j'accepte les paroles de Rabbi Yosha à propos des oblations. Shai Omer, car il disait, imen sham shiraim, en komet. S'il n'y a pas de reste de l'oblation, on n'a pas le droit de brûler sur l'autel la partie qui a été prélevée. Imen komet, en jiraim. Et si la partie qui a été prélevée n'est pas brûlée sur l'autel, parce qu'elle est devenue impure ou elle était perdue, alors à ce moment-là, on n'a pas le droit d'en manger les restes. Donc apparemment, il se contredit, il accepte et les paroles de Rabbi Yezer et les paroles de Rabbi Yoshua. Amal, et alors Abaye lui a répondu à Rav Papa, Mistabra Kamar. Rabbi Yossi ne vient pas nous dire qu'il l'accepte, il vient nous dire la logique des choses. Qui kae bezvachim? Alors il nous dit, lorsque Rabbi Yossi enseignait les lois de des sacrifices, Amar il a dit, Mistabra il est logique, qui hérite des pligues bezvachim, pligues nami binachot. Que de même qu'ils sont Rabbi Yoshua et Rabbi Lezer en discussion à propos des sacrifices, ils sont en discussion aussi à propos des oblations. Et, qui kae bezvachim, lorsque Rabbi Yossi enseignait les lois des oblations, Amar il disait, Mistabra qui écrit des pligues bemnachot, pligues nami bezvachim. Il est logique que de même qu'ils sont en discussion à propos des oblations, ils sont en discussion aussi à propos des sacrifices. Amar, et alors Rav Papa lui a dit, il a posé une question à Abaye sur cette façon d'expliquer les paroles de Rabbi Yossi. Hatinar qui kae bezvachim. Je peux comprendre que lorsqu'il enseignait les lois des sacrifices, Amar il a dit, Mistabra qui écrit des pligues bezvachim, pligues nami bemnachot. C'est logique de penser que de même qu'ils discutent à propos des sacrifices, ils discutent à propos des oblations. Pourquoi? Car les psukim, les versets qui sont à la base de la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, lorsqu'ils sont écrits, ils sont écrits à propos des sacrifices. Et donc, de même qu'ils sont en discussion à propos des sacrifices, ils sont en discussion à propos des oblations. Et là, qui kae bemnachot ve'amar, mistabra qui kae pligue bemnachot pligue nami bezachim. Mais de dire que lorsqu'il enseignait les lois des oblations, il a dit qu'il est logique que de même qu'il discute à propos des oblations, il discute à propos des sacrifices. Comment est-ce possible de dire une chose pareille? Pourtant, les versets qui sont à la base de leur discussion sont écrits à propos des sacrifices. Et comment pouvons-nous dire il est logique qu'il discute à propos des sacrifices, de même qu'il discute à propos des oblations? Et ça vient en fait sous-entendre que le principal de leur discussion est à propos des oblations. Ce n'est pas vrai. Le principal de leur discussion est à propos des sacrifices. Et là, alors, Gamara nous dit, Lokasha. En fait, non, c'est pas une question. Comment est-ce qu'il faut expliquer les paroles de Rabbi Yossi? Il faut dire comme cela. J'accepte les paroles de Rabbi Yossi dans un cas où le reste de la viande ou de l'oblation sont devenus impurs. Et j'accepte les paroles de Rabbi Yossi lorsque le reste de la viande et de l'oblation ont été perdus ou ont été brûlés. Car dans un cas pareil, il ne reste plus du tout de viande. Or, la Gemara demande, Benitma Maitama, pour quelle raison accepte-t-il les paroles de Rabbi Eliezer dans un cas où le reste de la viande est devenu impur? Et il nous dit qu'on a le droit de jeter le sang sur l'autel. Car le titre peut faire considérer la viande d'un sacrifice qui est devenu impur comme étant consommable. Le titre ne peut considérer la viande comme étant consommable. Et donc, pourquoi, lorsqu'elle est impure, il pense qu'en Rabbi Eliezer? Pas possible d'expliquer les choses d'une façon pareille. Elle a l'okashia. Alors non, il faut dire, ce n'est pas une question, et on peut dire une autre réponse. Rohani et divrei Rabbi Eliezer betzibur. J'accepte les paroles de Rabbi Eliezer lorsque c'est un sacrifice public, un sacrifice pour l'assemblée. Dans un cas pareil, si la viande est impure, on a le droit d'en jeter le sang sur l'autel. Et j'accepte les paroles de Rabbi Yoshua lorsque c'est un particulier qui amène son sacrifice et que la viande de son sacrifice est devenue impure. Dans un cas pareil, je pense comme Rabbi Yoshua qu'on n'a pas le droit de jeter le sang sur l'autel. Alors la Gemara demande, Betibo, Maitama, pourquoi allons-nous dire que Rabbi Yossi est d'accord avec Rabbi Eliezer dans un cas où c'est un sacrifice public? Pourquoi il dit qu'on a le droit d'en jeter le sang? Mishum de Touma, Outra Betibo, allons-nous dire parce que Rabbi Yossi pense que les lois d'impureté ont été annulées lorsque c'est un sacrifice public, et donc c'est pour cela que l'on a le droit d'en jeter le sang sur l'autel. Alors c'est pas possible. Chada, premièrement, de Shamad le Rabbi Yossi d'Amar Touma Drouyaï Betibo. Premièrement, nous avons entendu dire que Rabbi Yossi pense que les lois d'impureté ne sont que repoussées et ne sont pas entièrement annulées. Véod, et de plus, Ibetibo, si nous parlons d'un cas d'un sacrifice public, Rabbi Yezer Marchir Velo Rabbi Yoshua. Que Rabbi Eliezer est d'accord que l'on a le droit de jeter le sang et pas Rabbi Yoshua.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Daf Ainchet Amud Bet. Ha Amad Betibo, a vu le Rabbi Yoshua modé. Pourtant nous avons dit que dans un cas d'un sacrifice public, même Rabbi Yoshua est d'accord que l'on a le droit de jeter le sang sur l'autel. Et là, alors en fait, non, il faut expliquer les paroles de Rabbi Yossi comme cela. J'accepte les paroles de Rabbi Eliezer dans un cas où le sang a déjà été jeté, et j'accepte les paroles que le sacrifice est accepté, et j'accepte les paroles de Rabbi Yoshua, a priori. Si l'on vient nous poser la question, avant de jeter le sang, est-ce qu'on a le droit de le jeter ou pas? Je dirais que l'on n'a pas le droit de le jeter. Alors l'Agma demande, comment est-ce possible de dire une chose pareille? Diavad, si le sang a déjà été jeté, afilo Rabbi Yoshua nami modeu. Même Rabbi Yoshua est d'accord que le sacrifice est accepté. Dektane, car nous avons enseigné, modé Rabbi Yoshua est d'accord, Sheim Zarak, que si le sang a été jeté, ou ça, le sacrifice est accepté. Alors l'Agma répond, non. Habetouma, habetavut vesarouf. Ici, nous parlons d'un cas où la viande est devenue impure, et ici nous parlons d'un cas où elle a été perdue et brûlée. C'est-à-dire, kik tanemode Rabbi Yoshua shim zara kurta, quand c'est que Rabbi Yoshua a enseigné que si le sang a été jeté, il est accepté, benitma, seulement dans un cas où la viande est devenue impure. Aval be'avud besarouf, mais dans un cas où elle a été perdue ou brûlée, et donc il ne reste plus du tout de viande, l'eau. Dans un cas pareil, Rabbi Yoshua n'est pas d'accord que l'on a le droit de jeter le sang sur l'autel. Et qui kama Rabbi Yossi rohani et divrei Rabbi Eliezer bediavad. Et lorsque Rabbi Yossi a dit qu'il accepte les paroles de Rabbi Eliezer dans un cas où le sang a déjà été jeté, be'avud v'sarouf, c'est dans un cas où la viande a été perdue ou brûlée. Et dans un cas pareil, Rabbi Yoshua n'est pas d'accord. Et donc nous ne pouvons pas poser la question à Rabbi Yossi que même Rabbi Yoshua est d'accord. Car dans un cas pareil, dans un cas où la viande a été perdue ou brûlée, Rabbi Yoshua n'est pas d'accord que l'on a le droit de jeter le sang sur l'autel. Même si le sang a déjà été jeté, il dit que le sacrifice n'est pas accepté. Et là-dessus, Rabbi Yossi vient nous dit que dans un cas pareil, je suis d'accord avec l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit que si le sang a déjà été jeté, le sacrifice est accepté. La Mishnah nous dit, Nitma basar vechelev kayam. Si la viande du sacrifice de Pessah est devenue impure, mais que les graisses qui doivent être offertes sur l'autel sont restées pures, et nos oreilles d'âme, on n'aura pas le droit de jeter le sang de ce sacrifice sur l'autel. Car toute la raison pour laquelle on offre le sacrifice de Pessah, c'est pour en consommer la viande. Or, étant donné que ici la viande est devenue impure, donc on n'aura pas le droit de la consommer. Donc, puisqu'on n'a pas le droit de la consommer, on n'a pas le droit de jeter le sang de ce sacrifice pour le faire accepter sur l'autel. Par contre, nitmar elev ve'abasar kayam, si les graisses qui sont offertes sur l'autel sont devenues impures et que la viande est restée pure, alors Zorek et Adam, dans un cas pareil, il aura le droit de jeter le sang sur l'autel. Ou bien Mugdashim, mais à propos des autres sacrifices, Enoken, ce n'est pas ainsi. Et la Afalpishenitma Basar Vachelev Kayam, bien, et nous disons que bien que la viande est devenue impure, et donc qu'on ne peut plus la consommer, mais que les graisses sont restées pures, Zorek et Adam, on aura le droit de jeter le sang sur l'autel. Et la Gemara nous dit, Amar Rav Gidal, Amar Rav, Rav Gidal a dit au nom de Rav, Im Zarak Osa. C'est vrai que si la viande du sacrifice de Pessah est devenue impure, et qu'on ne peut plus la consommer, on n'a pas le droit d'en jeter le sang sur l'autel. Mais s'il a jeté le sang sur l'autel, le sacrifice est accepté. La Gemara demande, comment pouvons-nous dire que le sacrifice est accepté? On a besoin que le propriétaire de sacrifice le mange pour se rendre quitte de son obligation. Or, étant donné que la viande est impure, il n'aura pas le droit de la manger. Alors la Gemara répond, Achila, l'homme et Agva. Le fait de manger la viande du sacrifice de Pessah, ça n'empêche pas l'accomplissement de la mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah d'offrir le sacrifice de Pessah, c'est l'offrir. C'est vrai qu'il vaut mieux en manger la viande, mais si on n'en a pas mangé la viande, ce n'est pas grave, on a quand même accompli la mitzvah d'offrir le sacrifice de Pessah. Alors, la demande, comment est-ce possible de dire une chose pareille, que le fait de manger la viande n'empêche pas l'accomplissement de la mitzvah d'offrir le sacrifice de Pessah, va actif, pourtant il est écrit à propos du sacrifice de Pessah, Ish lefi ochlo, que chacun devrait apporter un sacrifice suivant sa consommation. C'est-à-dire que plusieurs personnes se nomment sur une bête, et chacun suivant sa consommation, alors on répartira le nombre de personnes par rapport à la bête. Et donc nous voyons qu'il y a une obligation de consommer de la bête du sacrifice de Pessah. Donc moi répondant, les mitzvahs, ce n'est que pour nous dire qu'il y a une mitzvah de manger de la bête du sacrifice, de la viande du sacrifice, mais ce n'est pas une obligation. Donc on me demande, ou la kevlo? Alors quoi, allons-nous dire que ça n'empêche pas l'accomplissement de la mitzvah d'offrir le sacrifice de Pessah d'en manger la viande? Vatania, pourtant, nous avons enseigné dans une braïta. Bemirsat, il écrit qu'on devra apporter le sacrifice de Pessah. Bemirsat nefashot, suivant le nombre de personnes. C'est-à-dire, on devra amener une bête suivant le nombre de personnes. Si, il faut qu'il y ait suffisamment, dans cette bête, suffisamment que chacun ait au moins un kazaït de viande. Et donc, melamed, shena Pessah nishrat, elalimnuya. Et de là, nous apprenons que le sacrifice de Pessah ne peut être offert que pour ceux qui ont été nommés sur ce sacrifice. C'est-à-dire qu'on prend une bête, on dit voilà, dans cette bête il y a tant et tant de kazaït, tant et tant de kazétim, alors il y a tant et tant de personnes qui pourront manger de ce sacrifice de Pessah, et donc le sacrifice est offert pour ces personnes-là. Donc nous apprenons que ces personnes doivent être nommées sur le sacrifice de Pessah, et on offre le sacrifice pour ces personnes-là. Yachol shechato shel Elohim nuyav, yeh ki over la mitzvah vekasher. J'aurais pu penser, si ce n'était que de ce verset, que s'il a abattu le sacrifice pour des personnes qui n'ont pas été nommées sur cette bête, alors c'est considéré qu'il a transgressé la mitzvah, mais le sacrifice est quand même valide. Talmud Lomar, le verset nous dit, Ish lefi ochlo, chacun suivant sa consommation, tachosu vous compterez. Et donc nous voyons qu'ici, Akatuv Shina Alav, Lakev, que le verset a répété cela une seconde fois. C'est-à-dire, nous n'avons pas dit une première fois déjà, suivant le nombre de personnes. Nous répétons, nous disons, chacun suivant sa consommation. Et donc le verset vient et répète cela une deuxième fois pour nous dire que si l'on a offert le sacrifice de Pessah pour des personnes qui n'ont pas été nommées sur ce sacrifice, le sacrifice n'est pas valide. Ve'itkish ochlin limnuim. Et dans ce verset-là, il y a une juxtaposition entre ceux qui ont été nommés sur ce sacrifice et ceux qui peuvent le manger. C'est-à-dire que nous apprenons de cette juxtaposition que de même que l'on doit offrir le sacrifice de Pessah seulement pour ceux qui sont nommés sur ce sacrifice, de même ceux qui sont nommés ne doivent être que des personnes qui peuvent le manger. Et par exemple, on n'a pas le droit d'offrir le sacrifice de Pessah pour une personne qui est malade et qui n'a pas la possibilité de manger la viande du sacrifice, ou pour une personne âgée qui n'a pas la possibilité de manger la viande du sacrifice. Mais on devra offrir le sacrifice seulement pour des personnes qui peuvent le manger. Or, étant donné qu'il y a une obligation d'offrir le sacrifice seulement pour des personnes qui peuvent le manger, et que l'on n'a pas le droit de l'offrir pour des personnes qui ne peuvent pas le manger, et si on l'offre pour des personnes qui ne peuvent pas le manger, le sacrifice n'est pas valide. Cela prouve donc que le fait de consommer le sacrifice de Pessah est quelque chose d'important, et que si on ne le consomme pas, alors on n'accomplit pas la mitzvah d'offrir le sacrifice de Pessah. Et donc, à nouveau, revient la question sur Rav Guidal au nom de Rav, comment peut-il dire que le fait de manger le sacrifice de Pessah est quelque chose de facultatif? Alors la Gemara répond, « Et la Rav de Amar qui Rabbi Nathan. » Il faut dire que Rav pense comme Rabbi Nathan. De Amar qui a dit, « Achilat psachim lo me'agva. » Le fait de manger de la viande du sacrifice de Pessah n'empêche pas l'accomplissement de la mitzvah. La Gemara demande, « Hey Rabbi Nathan, où avons-nous vu que Rabbi Nathan pense une chose pareille ?»« Ilima Rabbi Nathan, si nous voulons dire que c'est Rabbi Nathan, cet enseignement de Rabbi Nathan, des Tanya qu'on nous a enseigné dans une braïta. » Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit, Minayin shekol Israel yotzim bePesach echad, d'où je sais que tous les béné Israël, tout le peuple d'Israël peut se rendre quitte avec une seule bête de sacrifice de Pessah. C'est-à-dire qu'il y aura une seule bête qui est amenée, et avec cette bête, on rend quitte tout le peuple d'Israël. Dans le monde de Mar, le verset nous dit, Veshartu oto kol kehal adat Israël, ben arbaim. Et ils abattront toute l'assemblée du peuple d'Israël dans l'après-midi. Vechikol akal shuratin. Est-il possible de dire une chose pareille, que toute l'assemblée abat le sacrifice? Ben alors, Enchoret et Laechat, pourtant il n'y a qu'une seule personne qui abat le sacrifice de Pessah, ce n'est pas toute l'assemblée. Et là, Melamed, et là, alors de là, j'apprends, chez Kol Israël, Yotim Bepessah Echad, qu'en fait, tous les bénés Israël, tout le peuple d'Israël peuvent se rendre quitte avec une seule bête. Or, si tout le peuple d'Israël se rend quitte avec une seule bête, c'est sûr qu'ils n'ont pas tous la possibilité de manger de la bête du sacrifice de Pessah qui a été offert. Et donc de là, je vois que Rabbi Nathan pense que le fait de manger de la viande du sacrifice de Pessah n'empêche pas l'accomplissement de la mitzvah. Et on peut très bien ne pas en manger et accomplir la mitzvah. La Gemara demande non, peut-être pas. Dilma Sha'ane Atam, peut-être que là-bas c'est différent. Dilma Sha'ane Chazeleane. Dilma Sha'ane Chazeleane. Que là-bas, c'est vrai que tout le peuple d'Israël se nomme sur le sacrifice de Pessah. Mais si une partie s'en retire, alors à ce moment-là, il en restera suffisamment de viande pour l'autre partie. Et si l'autre partie se retire, il restera suffisamment de viande pour la première partie, etc., etc. Et donc, on peut toujours penser qu'une partie du peuple va se retirer à la dernière minute, et il restera suffisamment de viande pour la partie qui reste. Et donc, potentiellement, il y a suffisamment de viande pour les propriétaires de sacrifice. Par contre, ce n'est pas le cas chez nous, étant donné que la viande est devenue impure, elle est complètement impropre à la consommation, et puisqu'elle est complètement impropre à la consommation, alors même potentiellement, il ne reste pas suffisamment de viande pour les propriétaires. Donc il nous dit que dans un cas pareil, on se rend quitte de son obligation. Et là, Rabbi Nathan, alors la Gemara nous dit non, en fait, c'est vrai, on ne peut pas l'apprendre de cet enseignement de Rabbi Nathan, on peut l'apprendre de l'autre enseignement de Rabbi Nathan. D'Etania, car nous avons enseigné dans une braïta. Nimnu alav chabura achat. Si un premier groupe s'est nommé sur une bête, pour que cette bête soit leur sacrifice de Pessah. Puis après, il y a un second groupe qui a été nommé aussi sur cette bête. Alors, Rishonim, Sheshlem Kazaït, Ochlinu Pturim. Le premier groupe, qui ont une quantité d'un Kazaït chacun de viande, alors, ils offrent le sacrifice de Pessah, ils le mangent, et ils se sont rendus quittes de leur obligation. Milasot Pessah Sheni, et donc ils sont exempts d'offrir Pessah Sheni, parce qu'ils ont accompli leur obligation. Par contre, Acharonim, le second groupe, chez Enlaim Kazaït, qui n'ont pas une quantité minimum d'un Kazaït de viande chacun, car eux, ils viennent après le premier groupe. Or, le premier groupe a déjà reçu chacun une quantité d'un Kazaït. Donc, eux, ils n'ont pas suffisamment de viande. Donc, Enochrin, ils ne pourront pas manger de ce sacrifice de Pessah. Vechavim, la seule Pessah Sheni. Ils auront donc l'obligation d'offrir Pessah Sheni. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit, Elou va Elou, Pturim, la seule Pessah Sheni. Ceci et cela, c'est-à-dire le premier groupe et le deuxième groupe, le premier groupe qui mange de la viande du sacrifice de Pessah, et le deuxième groupe qui n'en mange pas, les deux seront exempts d'offrir Pessah Sheni. Pourquoi? Shekvar Nizrak Adam, car le sang a déjà été jeté, et donc puisque le sang a été jeté, le sacrifice a été accepté pour tous les propriétaires de ce sacrifice, et donc que ce soit le premier groupe ou que ce soit le second groupe. Et donc ici nous voyons explicitement que d'après Rabbi Nathan, le second groupe, qui n'a pas mangé de la viande du sacrifice de Pessah, malgré tout s'est rendu quitte de son obligation, puisque le sang a été jeté. La Gemara répond, non, à Kate Dilma, Shanatam, peut-être que quand même on peut dire là-bas c'est différent, ce cas et notre cas. Pourquoi? Deimam Shechane, Chazeleu, si le premier groupe se retire, il restera suffisamment de viande pour le second groupe. Et donc, nous revenons à ce que nous avons dit plus haut. Potentiellement, il y a suffisamment de viande dans ce sacrifice pour tout le monde. Alors, c'est vrai que maintenant, il n'y en a pas, mais étant donné que potentiellement, il y en a, alors c'est possible, c'est pour cela qu'ils se rendent quittes de leur obligation. Par contre, chez nous, dans notre cas, même potentiellement, il n'y a pas suffisamment de viande. Car étant donné que la viande est devenue impure, elle est entièrement impropre à la consommation. Alors, la Gemara répond, Imken, litne hoil veroil imacher. Si c'est ainsi que c'est cela la raison de Rabbi Nathan, car potentiellement il y a de la viande, alors il y a de la viande pour le second groupe, alors autant l'écrire explicitement et dire que la raison pour laquelle le second groupe n'a pas besoin d'offrir Pessah Sheni et s'est déjà rendu quitte de son obligation, car c'est possible que le premier groupe se retire du sacrifice de Pessah. Et donc potentiellement il y a de la viande. Maïshek van Izrak Adam, pour quelle raison Rabbi Nathan a besoin de mentionner la raison qui nous dit que le sang a déjà été jeté? Shmamina bedam taliamita. Donc ça vient en fait nous sous-entendre que toute la raison pour laquelle le second groupe s'est rendu quitte de son obligation, ce n'est pas parce que potentiellement ils ont de la viande, mais parce que le sang est déjà jeté, et donc tout dépend du sang. Aval achila, l'homme est agva. Mais donc tout dépend du sang s'il est jeté ou pas, mais le fait de manger le sacrifice de Pessah n'empêche pas l'accomplissement de la mitzvah. Alors la Gemara demande, Maï dur ke de Rav, de Mukim la Manedin le Katrila, de Reb Nathan, pourquoi Rav est-il contraint de dire que la Mishnah nous parle d'un cas a priori et suivant l'opinion de Reb Nathan? C'est-à-dire que dans la Mishnah nous dit on n'a pas le droit d'en jeter le sang. Et Rav nous dit ça c'est le cas a priori, mais si le sang a déjà été jeté, alors le sacrifice est accepté. Nukme ke Rabbanan, ben fait le diavad. Disons que la Mishnah suit l'opinion de Rabbanan. Et la Mishnah nous parle même à posteriori que l'on n'a pas le droit d'en jeter le sang. Car Rabbanan pense que le fait de manger le sacrifice de Pessah empêche l'accomplissement de la mitzvah. Et donc si on n'en mange pas, on n'accomplit pas la mitzvah. Et donc si la viande est devenue impure, on n'aura pas le droit d'en jeter le sang. Ni a priori, ni a posteriori. Et donc Vafilu diavad, namilo, que même a posteriori, on n'aura pas le droit d'en jeter le sang. On m'a répondu, Rav matnitin, kshite. Rav, lui, il avait une question à l'encontre de la Mishnah. Amaitnan, pourquoi avons-nous enseigné la Mishnah? Enzorek et Adam, on n'a pas le droit d'en jeter le sang. L'itne est pas saoul. Nous avons qu'à enseigner que dans un cas pareil, si la viande est devenue impure, le sacrifice est invalide. Pourquoi avons-nous besoin, et donc automatiquement je comprends qu'on n'a pas le droit d'en jeter le sang. Pourquoi avons-nous besoin de dire un langage pareil, on n'a pas le droit d'en jeter le sang? Et la Shemina, donc en fait ça vient nous dire, Enzorek le Katrila, qu'on n'a pas le droit de jeter le sang a priori. Avaldi Avad. Mais a posteriori, si le sang a déjà été jeté, Shapir Damé, la mitzvah a été accomplie. La Gemara demande maintenant, ou le Rav Nathan, Ish le fiochlo, la mali. Nous avons vu plus haut qu'il y a un passage qui nous dit, chacun suivant sa consommation, que l'on devra apporter le sacrifice de Pessah, chacun suivant sa consommation. Et nous avons appris de ce verset, d'après les sages, que de là il y a une obligation de manger le sacrifice de Pessah. Or, d'après Rabbi Nathan, étant donné qu'il n'y a pas une telle obligation, alors qu'apprenons-nous de ce verset? Donc, ma réponse, des baïnan, gavra de chazelachila. C'est vrai qu'il n'y a pas une obligation de manger le sacrifice de Pessah, mais il faut que la personne l'offre ait la possibilité de le manger. Et donc, ce ne soit pas une personne qui est malade, qui ne peut pas le manger, ou une personne qui est une personne âgée, qui n'est pas apte à le manger. Il faut que la personne qui offre le sacrifice de Pessah soit apte à le manger. Il n'a pas d'obligation de le manger pour accomplir la mitzvah. Mais il faut qu'il soit apte à le manger. Ragma demande, Mantana lea de Tanu Rabbanan. Quel est le Tana qui a enseigné ce que les sages ont enseigné? Shechato leochlav, s'il a battu le sacrifice de Pessah pour des personnes qui peuvent le manger, vezarku damo shelo leochlav, et ils en ont jeté le sang pour des personnes qui ne peuvent pas le manger. Alors dans un cas pareil, ha Pessah atzmo kasher, le sacrifice de Pessah en lui-même est valide. Ve'adam yotzebo yede chovato, et l'homme qui l'a offert s'est rendu quitte de son obligation. Alors keman, quelle opinion cela suit-il? Neymar Rabbi Nathan, allons-nous dire que c'est l'opinion de Rabbi Nathan, qui lui pense qu'il n'y a pas d'obligation de le manger, et donc c'est pour cela que si le sang a été jeté pour des personnes qui ne peuvent le manger, alors le sacrifice est valide. Velo Rabbanan, et donc cela ne suit pas l'opinion de Rabbanan. Alors comment répond à Philo Neymar Rabbanan, tu peux toujours dire que c'est ça suit même l'opinion de Rabbanan des sages. Et malgré tout, bien qu'ils ont jeté le sang pour des personnes qui ne peuvent le manger, le sacrifice est valide. Pourquoi? En marchevet ochlim bezrika. toutes les pensées ayant trait à la consommation du sacrifice n'invalide pas le sacrifice lorsqu'on en jette le sang. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des pensées qui peuvent invalider le sacrifice lorsqu'on jette le sang de sacrifice sur l'autel, mais les pensées qui ont trait à la consommation du sacrifice n'invalident pas le sacrifice. La Gemara continue et demande « Mantana leha de Tanoura Banan » Quel est le Tana qui a enseigné ce que nos sages nous ont enseigné ?« Areshaya chole beshah shrita » Une personne qui était malade au moment où on a battu la bête et ne pouvait pas la manger au moment où on a battu le sacrifice de Pesach. « Vechalim beshah drika » Et il était en bonne santé au moment où on en a jeté le sang. Ou alors, Khalim Beshat Shrita, il était en bonne santé au moment où on a abattu la bête. Vechole Beshat Zrika, il était malade au moment où on en a jeté le sang et ne pouvait pas en consommer le sacrifice de Pessah. Alors, En Shukhatin Bezokim, Alab, Ache Khalim Beshat Shrita, Ache Zrika. On n'a pas le droit d'abattre le sacrifice de Pessah et d'en jeter le sang sur l'autel, seulement s'il est en bonne santé, depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis le moment où on abat la bête jusqu'au moment où on en jette le sang sur l'autel. Mais s'il est en mauvaise santé au moment de l'abattage ou au moment où on en jette le sang, le sacrifice n'est pas valide. Ragma demande Keman, quelle opinion cela suit-il? Neymar Rabbanani velo Rabbi Nathan. Allons-nous dire que c'est l'opinion des sages et pas l'opinion de Rabbi Nathan? Car Rabbi Nathan pense que le fait de manger le sacrifice n'empêche pas l'accomplissement de la mitzvah. Donc on peut abattre pour une personne qui ne peut pas le manger. Par contre, les sages, eux, pensent qu'il y a une obligation de manger le sacrifice. Donc, puisqu'il y a une obligation de manger le sacrifice, il faut qu'il soit apte à le manger au moment où on l'abat et où on le jette le sang. Alors, moi, répondant à Philo, Rabbi Nathan, tu peux même dire que cette morata suit l'opinion de Rabbi Nathan. Et pourquoi avons-nous qu'il y ait la possibilité? Gabra de chazelachela bainan. Nous avons besoin qu'au moment où on abat la bête, l'homme qui l'offre soit apte à la consommer. Comme nous l'avons vu plus haut, que nous l'apprenons du verset Ish le piochlo. Chacun suivant sa consommation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation de manger le sacrifice de Pessah, mais il faut que la personne qui l'offre soit apte à le manger. La Gemara demande « Mantana leha de Tanoura Banan » Quel est le Tana qui pense ce que nos sages nous ont enseigné? « Shechato betahara » Si le sacrifice de Pessah a été abattu en état de pureté. « Berkan itmeu abalim » Et après cela, les propriétaires sont devenus impurs. « Izarek adam betahara » Alors on aura le droit de jeter le sang en état de pureté, c'est-à-dire que bien que les propriétaires sont impurs, mais des kohanim purs en jetteront le sang sur l'autel. Ve'al yochal basar betoma. Et ils n'auront pas le droit de manger la viande en état d'impureté, c'est-à-dire les propriétaires n'auront pas le droit d'en manger la viande. Keman, quelle opinion s'agit-il? Amar Rabbi Elazar, alors Rabbi Elazar nous dit, bemachloket shnuya, cette loi dépend d'une discussion, ve'Rabbi Natani. Et ça, c'est l'opinion de Rabbi Nathan, car Rabbi Nathan pense que l'on a le droit de jeter le sang sur l'autel, même si la viande n'est pas consommable. Par contre, les sages pensent que si la viande n'est pas consommable, par exemple, les propriétaires sont devenus impurs, et donc ils n'auront pas le droit de manger la viande du sacrifice de Pessah, alors on n'aura pas le droit d'en jeter le sang. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan dit, « Afilo teima rabbanani » Tu peux même dire que cette braïta suit l'opinion des sages, et malgré tout, pourquoi alors on a le droit d'en jeter le sang sur l'autel? Arabema, est-ce qu'il en ici de quelqu'un parlons-nous? Betibour, que la majorité du peuple est devenue impure. Deafilobetouma anamiavde. Donc on a le droit d'offrir le sacrifice, même en état d'impureté complet. Alors, comme on demande, dit Betibour, alors si c'est ainsi que la majorité du peuple est devenue impure, alors Amayenabasarne Khalbitouma. Alors pourquoi les propriétaires n'auront pas le droit d'en consommer la viande en état d'impureté? Étant donné que nous parlons d'un cas où la majorité du peuple est devenue impure. De même que l'on a le droit d'offrir le sacrifice de Pessah en état d'impureté, on aura le droit de le consommer en état d'impureté. Alors pourquoi n'ont-ils pas le droit de le consommer en état d'impureté? La Gemara répond, Xera Shema Itamu Abalim Lechazrika. On craint que l'année d'après, les propriétaires deviennent impurs après que le sang ait été jeté sur l'autel. Et nous parlons d'un cas, bien sûr, où la majorité du peuple deviendra impur après que le sang ait été jeté sur l'autel. Veyomro, ils vont dire, Ishtakad, l'année dernière, c'est-à-dire, dans ce cas-là, comme le cas que nous venons d'apprendre, L'onitmenu vachanu, ne sommes-nous pas devenus impurs après l'abattage rituel et malgré tout, nous avons mangé du sacrifice de Pessah? Ashana minichol, alors que cette année aussi, on en mange. Veloyade, et eux, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a une différence entre l'année dernière et cette année. Pourquoi? Deishtakad, ki izdarik dam, balint meim avu. Que l'année dernière, lorsque le sang a été jeté, le propriétaire était déjà impur. Et donc, ça s'appelle un sacrifice de Pessah qui est amené en état d'impureté. Et c'est pour ça qu'ils ont le droit d'en consommer en état d'impureté. Ashta berlit tahorim avou. Par contre, ici, cette année-là, au moment où l'on a jeté le sang, les propriétaires étaient purs. Et ils ne sont devenus impurs qu'après le jet du sang sur l'autel. Donc ça ne s'appelle pas un sacrifice de Pessah qui est amené en état d'impureté. Ça s'appelle un sacrifice de Pessah qui est amené en état de pureté. Et après cela, les propriétaires sont devenus impurs. Et dans un cas pareil, ils n'ont pas le droit de consommer la viande en état d'impureté. Même si c'est la majorité du peuple qui est devenu impur. Et donc, on craint que eux, ils ne savent pas faire ces différences. Et qu'ils vont dire donc que même la seconde année, ils vont dire que même s'ils sont devenus impurs après le jet du sang, alors ils ont le droit d'en consommer la viande. Car l'année d'avant, ils ont eu le droit d'en consommer la viande. Et donc, pour ne pas en arriver à une chose pareille que les gens viennent se tromper, on dit que dans tous les cas, la consommation de la viande est interdite. Et nous avons fini ici le shiur de Daf Ayin Chet.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi quotidiennement en vidéo.